Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bueno sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic, que va a golpear.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu. Entame la phase retour de cette saison 2022-2023 Ligue à la 20e journée avec un choc, on peut le dire, un match toujours très alléchant entre deux cadors du football espagnol, même si c'est vrai que les dynamiques ne sont pas forcément les mêmes en ce moment, on va en parler. On va bien sûr évoquer cette rencontre du dimanche entre le Barça et Séville, une rencontre évidemment passionnante. Et pour parler du Barça, on retrouve bien évidemment Sacha qui est avec nous. Salut Sacha, comment tu vas?
Écoute, salut Réfé, ça fait toujours très plaisir. J'ai envie de te dire 50 points après 57 possibles et 19 journées. Comment pourrais-je mal aller? Non, tout va très très bien et puis hâte de commencer ce podcast.
Mais exactement, tu évoques déjà un point dont on va parler juste après. Et puis pour parler de Séville, on retrouve Miguel qui est avec nous. Comment tu vas, Miguel?
Bonsoir à tous, merci de m'inviter sur ce podcast. Ça fait toujours plaisir de parler de mon club. Ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. 13e place, on sort de la zone rouge enfin.
Voilà, c'est vrai que Séville a connu une légère remontée, on va y revenir, et a pu, on va dire, passer la mi-saison en tout cas en dehors de la zone rouge. Mais on va d'abord commencer par parler du Barça qui recevra donc ce dimanche soir. Bon, c'est vrai, tu le disais, Sacha, 50 points sur 57 possibles. Donc aussi une place de champion d'hiver à la mi-saison. Et ce début d'année 2023 qui est quand même relativement bon, on pourrait même dire parfait, puisqu'il y a eu la victoire évidemment en Super Coupe d'Espagne et la qualification donc en demi-finale aussi de Coupe d'Espagne. Est-ce que pour toi le Barça peut-il tout gagner dans cette fin de saison, sachant qu'on sait qu'il y a aussi l'Europa League qui arrive bientôt?
Ouais, exactement, un calendrier chargé, on va y revenir juste après dans ce point, mais tu l'as dit, 2023 c'est parfait. On avait quitté 2022 avec un goût amer dans la bouche, avec ce un partout lors du derby avec un penalty, un arbitrage plus que douteux de Matteo Laos qui lui a d'ailleurs valu quelques semaines au frais, comme on dit. Mais voilà, début 2023, c'est sur le plan comptable, c'est parfait. Que des victoires. Bien sûr, il y a eu face au Betis en demi-finale de Supercopa, c'est allé jusqu'au penalty, mais bon, il y a la qualif, donc on prend ça en compte comme une victoire. Des matchs qui, mine de rien, des fois n'ont pas été géniaux. Je pense notamment au déplacement au Metropolitano, c'était assez inquiétant. Le match face à Getafe au Camp Nou, on était loin d'un récital de football, mais ensuite ça s'est quand même un peu amélioré. Face à Gironde, ça a beaucoup souffert à la fin, mais il y a eu une grosse période aussi de domination au retour des vestiaires, et c'est ce qui a permis l'ouverture du score de Pedri dans un match assez difficile aussi, où il n'y avait pas encore Lewandowski, Ferran, Ousmane Dembélé s'était blessé, donc voilà, c'était compliqué. Et puis là vraiment un match incroyable face au Betis. Rares sont les équipes capables d'aller dominer de la sorte au Benito Villamarín. On en parlera plus tard dans le podcast, mais on a vraiment un Barça qui s'est trouvé et qui est puissant, qui affiche vraiment une sérénité, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça comme ça. J'ai pas envie de dire injouable, mais on sent que les adversaires sont à nouveau dans une situation où ils se disent à chaque fois qu'ils vont affronter le Barça, aïe, ça va être dur. Et c'était peut-être un sentiment qui n'existait plus au cours des dernières saisons. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que le Barça peut tout gagner? C'est aussi un autre débat. Bon, on a commencé à gagner avec cette Supercopa. On est en très bonne voie, comme je viens de le dire. Mais mine de rien, le Mercato, ben, on a perdu Memphis Depay. Donc un attaquant en moins, Hector Bellerin, même s'il n'était plus du tout dans la rotation de l'équipe, un peu comme Memphis, mais bon voilà, ça fait des jokers en moins. Donc l'effectif est quand même amoindri, il y a moins d'options. La Ligue Europa arrive, comme tu l'as évoqué, donc ça va encore plus densifier le calendrier. On joue tous les trois jours. Et je me dis qu'avec certaines blessures qui pourraient arriver, Ça risque d'être compliqué. On le voit avec Ousmane Dembélé. Malheureusement, il s'est fait le biceps fémoral. Et ça, c'est le genre de blessure qui prend entre 1 et 2 mois de convalescence. Donc là, on se retrouve déjà dans une situation où en attaque, il n'y a plus que Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres et bien sûr Rafinha. Donc il ne faut pas qu'il y en ait un qui se fasse suspendre ou alors qui contracte une grave blessure. Parce que là, sinon, Xavi serait vraiment court. Au milieu de terrain, pareil. Sur le banc, tu as Kessié et Pablo Torre. Tu as 4 autres milieux qui sont sur le front. Et en défense, bon, Eric Garcia reprend timidement, Alba il couvre le poste avec Baldé, mais après, pareil, au niveau de l'aile droite, tu as Sergio Roberto et Koundé qui prend ses marques, mais un Sergio Roberto bon, qui a aussi récemment enchaîné les blessures. Donc, c'est vrai que la question de l'effectif m'effraie un peu quand je pense à notamment l'enchaînement Europe-Liga. Je pense que c'est une équipe qui a vraiment réussi à redominer les équipes espagnoles, mais qui risque d'avoir du mal sur la scène européenne face à des équipes, par exemple, d'Angleterre ou d'Allemagne. On l'a vu récemment, les équipes espagnoles ont globalement du mal face à ces équipes-là, et le Barça n'en fait pas exception. Tout gagner, je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que le doublé national, enfin le triplé du coup avec la Supercopa, est possible. La Ligue Europa, je ne sais pas. Parce que vraiment, le calendrier me paraît trop dense par rapport à l'effectif, sachant qu'il n'y a pas eu de recrue du mercato. Mais après, sur la qualité même des joueurs et la qualité du football qu'on voit, c'est une possibilité et on espère que ça se passera de la sorte.
Oui, et puis c'est vrai qu'en plus, il y a cette réussite du coup sur le plan national. Et puis donc, il y a ce match-là, cette double confrontation même qui arrivera contre une équipe de Manchester United qui, pareil, depuis quelques temps, va mieux aussi. Donc, ça sera pareil, quelque chose de très intéressant à suivre. Et ça arrivera aussi très bientôt, bon, en même temps que la reprise de la Coupe d'Europe. Je repasse avec toi maintenant, Miguel, pour parler de Séville, enfin, pour parler d'un point justement qu'on a commencé un peu à évoquer rapidement au début de ce podcast, c'est que Séville effectivement va un peu mieux. Il y a eu une légère remontée du coup au classement avec maintenant cette 13e place. Mais voilà, depuis le retour du mondial, à peu près depuis sur les dernières semaines, quelle est l'analyse que tu fais un peu de cette équipe de Séville? On parlera du mercato un peu après, mais voilà, sur les résultats, sur ce qui est proposé directement depuis, voilà, depuis on peut dire à peu près un mois, depuis la reprise de la Liga, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Séville?
Les résultats, je ne vais pas dire qu'ils sont là parce que ça serait mentir, mais il y a des matchs où on passe complètement à travers. Il y a aussi des matchs, là notamment contre à la Copa del Rey. Je ne vais pas dire qu'on a bien joué contre Osasuna parce qu'on a perdu 2-1, mais ça m'a semblé un peu mieux qu'un championnat. Alors je ne sais pas ce que la direction a dit, s'il fallait faire bonne figure en Copa del Rey et on laisse un peu tomber le championnat, ça serait mentir, mais. Je pense qu'en Copa del Rey, on montre un autre visage qu'en championnat, parce qu'en championnat, là, récemment, on a gagné contre Cadiz, mais c'était sur pénalty, c'était pas glorieux. Bon, ça fait 3 points, on prend. Contre Elche, sans manquer de respect, on gagne 3-0, mais Elche, c'est dernier avec 5 points, hein, je le rappelle. Et il y a des résultats comme, par exemple, Rijona, c'était le 14 janvier, où honnêtement, il y a des joueurs qui sont passés à travers. Il y a Bono qui a fait n'importe quoi et Nianzou qui fait n'importe quoi. Donc, je pense que l'équipe est un peu à l'image du club en ce moment. On alterne entre le bien et le moins bien. Je ne veux pas dire non plus que c'est des superbes spectacles, sauf le match contre Elche, mais on alterne vraiment entre le moins bien et le bien.
Et toi, justement, pour continuer un peu sur cette question, est-ce que, alors c'est vrai que c'était quelque chose dont on parlait, mais sans vraiment y croire au fond, enfin, ça dépendait des gens, mais en tout cas, on était beaucoup à en parler sans se dire que c'était vraiment possible. Mais est-ce que, voilà, toi, tu considères toujours que l'équipe est en lutte pour le maintien ou est-ce que maintenant, tu penses que, voilà, ces 2 victoires, notamment de suite en championnat, permettent d'envisager, alors pas forcément l'Europe, mais en tout cas de finir plus haut au tableau, ou est-ce que tu continues de penser, voilà, qu'il faut se méfier de la zone rouge qui reste à peine à 2 points pour l'instant?
Bah, je pense qu'on va se maintenir. Maintenant, bon, on en parlera tout à l'heure parce qu'on parlera de Mercato, mais maintenant il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, notamment Pape Gueye et Brian Hill qui est revenu, qui peut nous apporter un peu de fraîcheur sans oublier Lucas Ocampos. Je trouve que depuis que Lucas Ocampos est revenu, c'est plus la même équipe, c'est lui qui dicte, entre guillemets, le jeu, quoi. Enfin, moi, on l'avait prêté à l'Ajax, il n'a pas eu de temps de jeu, il est revenu, il montre qu'il vaut que pourquoi on l'a prêté à l'Ajax, quoi. Donc je pense que pour répondre à ta question, on peut se maintenir, on peut essayer de grappiller des points, mais ça va être dur. pourquoi, pour quelle raison. Est-ce que l'équipe n'a plus trop confiance en Sampaoli? Parce que je rappelle juste qu'il a failli se faire virer si jamais les matchs contre Elche et les matchs contre Cadiz n'étaient pas, les résultats n'étaient pas là. Bon, il a retrouvé un peu la confiance des dirigeants, mais c'est pas encore ça. Est-ce qu'il a du mal à transmettre ce qu'il veut dans l'équipe? Seul, là, à l'heure actuelle, les nouvelles recrues montreront ou pas si c'est efficace.
Ouais, mais puis on va en parler donc un peu après, mais c'est vrai que tu as déjà bien présenté les points principaux de cette équipe de Séville depuis quelques semaines. C'est vrai que il y a à côté, on va pas forcément beaucoup en reparler ici, mais enfin on pourrait d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu toutes ces manifestations aussi autour du, enfin les jours de match en tout cas au Sanchez-Pizjuan sur enfin contre Pepe Castro du coup et l'ensemble de la direction. Donc c'est vrai que oui, le contexte en tout cas en dehors du terrain est toujours très très tendu, mais effectivement sur le terrain ça va un peu mieux, et puis il y a eu effectivement des recrues dont on va parler juste après. Je reviens juste avant de parler de ce point avec toi Sacha sur le Barça, parce que voilà, c'est vrai que on l'a dit, ce Barça roule bien, ce Barça va mieux maintenant depuis quelques temps, mais voilà, pour toi quelles sont les principales forces de cette équipe pour notamment pouvoir aborder des matchs comme celui qui arrive là, et puis voilà les rencontres décisives dans les prochaines semaines qui vont suivre.
Et déjà, l'une des premières forces, c'est que c'est une équipe qui a vraiment appris à gagner, on le sent. Cette victoire en Supercopa, elle a fait beaucoup de bien dans les têtes. Ça a, je pense, libéré aussi un groupe, enfin un titre. C'était, je crois, 21 mois après le dernier, lors de la Copa en 2021. Voilà. Si un groupe veut aller au bout en fin de saison, c'est toujours bien de se créer une espèce de mémoire collective de succès. Et c'est ce qui est arrivé. Les victoires rappellent les victoires. Voilà, l'appétit vient en mangeant. Et actuellement, j'ai l'impression que ce Barça a quand même très très faim et l'a montré lors de matchs clés, hein, notamment cette finale face au Real Madrid. C'est ce qui a été beaucoup dit d'ailleurs en Espagne. C'est qu'il y avait vraiment l'impression de voir un Barça qui était mort de faim. Et pareil, on l'a aussi vu à certains moments sur certains matchs de Liga, avec encore la très belle performance, pour y revenir une nouvelle fois dessus, face au Betis. L'une des plus grandes forces de cette équipe, c'est, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, cette solidité défensive en Liga. Alors c'est une solidité qui ne s'est malheureusement pas retrouvée en Ligue des Champions, et même qui a eu un peu de mal à s'afficher en Copa, mais sinon, voilà, c'est très très peu de buts encaissés, 7 après 19 journées, 14 clean sheets, on en parlait juste avant ce podcast, mais voilà, Marc-André Ter Stegen, il est tout en haut de ce classement, et c'est pas anodin, parce qu'il y a aussi certains matchs où il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il y en a eu d'autres où il a dû faire quand même à chaque fois la petite parade décisive. On peut penser même à ce match, par exemple, face à Almeria. Almeria, la dernière de Gérard Piqué au Camp Nou, il y a quand même un moment, un face-à-face entre, il me semble, Ramazzani et lui, alors qu'il y a un 0-0 et il l'arrête. Donc, il a vraiment retrouvé de la confiance. Mais sinon, globalement, ce qui change avec le Barça de ces derniers mois, c'est vraiment la mise en place de ce système à quatre milieux qui avait été testé pour la première fois de la saison, si je me souviens bien, contre l'Athletic Club, qui avait donné vraiment plus que satisfaction ce jour-là, et qui a été reconduit alors face à l'Atlético, mais malheureusement c'était Ansu Fati, je l'adore, mais c'est pas Lewandowski, et on se rend bien compte que le rôle d'un vrai neuf dans ce schéma, il est prépondérant, parce que s'il n'y a pas un neuf qui peut encaisser le duel physique que vont imposer les deux centraux, voire trois, ça peut très vite capoter. Il faut qu'il sache jouer en pivot, il faut qu'il puisse faire des appels incessants. Ansu Fati peut faire des appels, mais jouer en pivot, c'est pas son rôle. De base, c'est un ailier, puis physiquement, il est frêle, quoi. C'est pas Lewandowski et sa carrure. Donc voilà, quand il y a vraiment les joueurs idéaux, les joueurs idoines, j'ai envie de dire, pour ce système, c'est vraiment génial. Ce milieu à 4, il permet vraiment de rayonner. Il donne un contrôle total, en fait, à cette équipe en termes de possession de balle et même de domination territoriale. Je veux dire, il y a vraiment Busquets et Frenkie de Jong qui font un travail colossal à la récupération, qui sont dans le contre-pressing extrêmement réactifs. Et puis devant eux, pareil, il y a Pedri et Gavi qui sont aussi très bons dans ces domaines-là, mais qui en plus ont beaucoup plus de liberté, sont beaucoup plus appelés vers l'avant. On l'a vu face au Betis, par exemple, Pedri était vraiment protagoniste, il s'est créé 2-3 occasions de but, et s'il est un peu plus inspiré, voilà, il les met au fond. Et ça, voilà, ça donne vraiment à ce Barça une emprise sur le match, et on sent bien que c'est vers ça que veut tendre Xavi. Moi, il y a certains moments, j'ai vraiment l'impression de voir une équipe très en place défensivement, qui a trouvé ses hommes avec Baldé, Christensen, Araujo et Jules Koundé. Voilà, ce milieu parfait qui comprend tout ce que veut faire Xavi, qui permet à l'équipe de vraiment enchaîner les matchs sans trop se mettre en difficulté. Maintenant, il manquera juste peut-être un peu plus de folie offensive, essayer de trouver des petites animations un peu différentes pour mettre encore plus en lumière Lewandowski et du coup Rafinha actuellement, vu que Dembélé est blessé. Mais non, sinon, c'est vraiment sur ça que s'appuie le Barça, cette vraie solidité défensive, maintenant ce contrôle des matchs au milieu de terrain, avec voilà, une salle des machines qui est partout. Vraiment, c'est assez bluffant de voir ça. Pour ceux qui ont l'occasion, vraiment, revoyez le match face au Real Madrid, revoyez le match face au Betis, et on a vraiment ce duo Busquets-Frenkie de Jong qui est au four et au moulin. Ils sont partout avec et sans ballon, et ils permettent au bloc de jouer bien plus haut et aux défenseurs d'être vraiment sereins. Donc voilà, c'est vraiment une émulation collective très intéressante. Xavi a trouvé son système maintenant, voilà. Pour passer un cap encore, je pense qu'il faudra arriver à trouver aussi une vraie animation offensive. C'est le problème d'être passé à 4 au milieu, c'est-à-dire qu'on a commencé la saison avec 2 ailiers et un 9. Aujourd'hui, il reste un ailier et le 9. Donc voilà, il faut essayer de compenser cette perte numérique par un surplus de qualité. Bon, de toute façon, tout ne peut pas être parfait du jour au lendemain. De mettre des choses en place, ça prend du temps. Donc là, voilà, la première des missions, c'était la mission défensive. Elle est, à mon sens, accomplie quand tous les joueurs sont là. Maintenant, le Barça arrive à vraiment bien dominer ses matchs et s'est trouvé vraiment une identité sous Xavi. Et la dernière pièce manquante, ce sera de faire en sorte que les joueurs de devant, ou même les joueurs qui sont appelés à se trouver dans des situations offensives, soient beaucoup plus tueurs et déséquilibrent encore plus l'adversaire, même si, pour finir mon propos, plus tu as du contrôle, plus en général l'équipe adverse doit jouer proche de sa surface, et donc moins c'est facile de la déséquilibrer, vu qu'elle joue sur un espace plus resserré. Mais enfin bon, voilà, c'est vraiment sur ça que s'appuie le Barça, et c'est très intéressant. On va voir lors de ce mois de juillet de très très belles affiches, et ce sera vraiment l'occasion de voir si c'est un système pérenne et qui amènera de nombreux trophées au Barça, je l'espère.
Ouais, puis pendant que pendant ton intervention, et puis par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, alors je suis allé chercher rapidement, il faudra revérifier, mais normalement, apparemment, le nombre de clean sheets, en tout cas record dans une saison de Liga, c'est 26. Et ça serait du coup Paco Liagno avec le déport en 93-94. Donc voilà pour le chiffre, et c'est vrai que Ter Stegen en est à 14 pour l'instant.
C'est un sacré défi, plus que 9.
Voilà, donc voilà, il faudra en tout cas.
J'ai cru 23, tu m'as dit 26.
26. Oui, du coup, 11. 12, pardon, 12.
12, voilà, ça y est, on va y aller. Voilà, les maths, c'est un peu compliqué, vous l'avez compris.
Voilà, c'est ça, mais moi, j'avais fait une erreur aussi de calcul. 12, oui, donc 26 sur 38 en 93-94. Donc voilà, ce sera en tout cas l'occasion de voir dans les prochains mois et si ce record peut être battu. Et puis donc, comme promis, du coup, Miguel, je reviens avec toi parce que il y a eu effectivement ce côté mercato très intéressant du côté de Séville. Il y a eu évidemment quelques recrues. Du coup, on parlait de Brian Hill qui arrivait en prêt, de Pape Gay, de Loïc Badé, le retour aussi d'Ocampos, et puis quelques départs aussi. On va en discuter. Mais voilà, est-ce qu'on peut, selon toi, parler de mercato réussi? On sait que Monchi a quand même une sacrée pression derrière lui maintenant depuis un temps à Séville. Voilà, est-ce qu'on peut parler de mercato réussi? Et dans la seconde partie de saison qui arrive, quels sont un peu les hommes forts à suivre pour toi dans cette équipe de Séville? Voilà, les joueurs en particulier qui seraient capables de faire des différences dans cette seconde partie de saison.
Bah, comme je l'ai dit, hors podcast, oui et non. Ocampos, j'ai jamais compris pourquoi, par exemple, on l'a prêté à l'Ajax. Mais enfin, bref, ça, c'est un détail. Tant mieux, on l'a récupéré parce qu'ils l'ont pas fait jouer. Moi, je suis content de sa venue. Brian Hill, c'est pareil, il a été très bon avec nous et il est revenu parce qu'il n'avait pas de temps de jeu à Tottenham. Pareil, j'ai pas compris pourquoi l'avoir vendu à Tottenham. Alors qu'on sait que Tottenham, en général, ils font, sans manquer de respect à ce club, ils ont du mal à faire jouer les Espagnols, et là-bas, on dirait que c'est un peu la prison parce qu'ils veulent retenir les joueurs. Faut savoir que Tottenham, au départ, n'était pas chaud pour le laisser revenir. Après, encore une fois, c'est encore une autre histoire. Pape Gay, Sampaoli le voulait. Il était à Marseille, je le rappelle, et il le voulait. Donc, on a réussi à attirer ce joueur. Pour moi, je n'ai pas suivi la saison de l'OM, mais pour moi, je pense que c'est un excellent joueur et il peut convenir à notre club. Et non, dans le sens où il y a eu beaucoup de prêts, notamment déjà cet été. On nous dit qu'on est le club qui a besoin d'argent. Et j'ai pas trop compris pourquoi il y a eu autant de prêts sans option d'achat, ou même des prêts avec option d'achat. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent, aussi dû à la crise Covid. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux et on aurait dû vendre certains joueurs, comme par exemple Yann Uzay qui est parti là aujourd'hui à Başakşehir. Donc je le rappelle qu'il est en Turquie et sans option d'achat. Alors que pour moi, il n'a pas du tout confirmé, hormis à la Sociedad, il a été très bon. Il n'a pas du tout confirmé depuis son arrivée et je pense qu'on aurait dû le vendre. Même si c'est, admettons, 3 millions ou 4 millions, alors que le joueur ne le vaut pas. Mais si tu as du mal à prendre son salaire ou à se débarrasser de lui, soit tu résilies son contrat comme on a fait avec Isco, ça me ferait mal parce qu'on a besoin d'argent, soit tu le vends à une faible forte value. Et pourquoi tu prêtes autant de joueurs en fait, c'est ça? Si on nous dit qu'on a besoin d'argent, pourquoi prêter autant de joueurs? Donc déçu parce qu'on a fait pas mal de prêts. J'aurais aimé un ou deux joueurs qui sont plutôt bons à faible forte value, comme on a fait par exemple avec Koundé, qu'on l'avait payé, je crois c'était 25 millions, entre 20 et 25, et puis on l'a revendu deux fois plus. Et voilà, aujourd'hui on retrouve plus le Monchi il y a 3-4 ans.
Oui, c'est ce que ben, notamment Romain Molina évoquait du coup dans ses vidéos récemment, mais que c'est vrai qu'en fait cette équipe de Séville, quand on compare un peu l'effectif, bon, il y a encore quelques saisons, enfin l'effectif de la saison dernière et l'effectif de cette saison, il y a toujours des joueurs de qualité effectivement qui sont là, mais on voit bien qu'il y a eu quand même un appauvrissement assez grand en termes de qualité, et qu'à côté de ça, effectivement, il y a tous ces problèmes économiques qu'il faut également solutionner. Et c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas eu de dépenses sur ce mercato hivernal, mais il n'y a pas eu non plus d'entrée en termes de cash. Et on sait que oui, effectivement, les joueurs qui ont été prêtés, ce ne sont pas forcément des joueurs qui ont un avenir prédestiné au club. Voilà, en tout cas, il faudra voir aussi. Mais c'est vrai que, mine de rien, en juillet, ils seront déjà de retour dans les rangs de Séville. Et c'est vrai que si leur prêt dans leur club respectif n'est pas forcément fructueux, c'est vrai que ça pourrait être aussi une autre problématique à gérer, parce que par exemple, il y a eu le cas de Augustinsson qui, pareil, avait été prêté en Angleterre à Aston Villa, qui est revenu là cet hiver, qui était prêté à Majorque. Donc voilà, il faudra aussi suivre tous ces dossiers-là, mais effectivement, il y a beaucoup de problématiques en termes économiques et puis autour de Mercato du côté de Séville, évidemment. Donc voilà, c'était bien de faire ce petit point. Et puis, pour parler du match en lui-même maintenant directement, bah, je vais d'abord te poser la question, Sacha. C'est voilà, comme on a l'habitude de le faire généralement, les absents pour cette rencontre, et puis les retours également de blessures et de suspensions, s'il y en a pour dimanche.
Alors, des suspensions, j'en parlerai après, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont sous la menace. Mais non, au niveau des absents et des retours, bah, pas de retour, vu qu'il y avait pour les derniers matchs aucun blessé, si ce n'est Dembélé, mais qui lui mettra plus d'un mois et demi à revenir. Donc là, c'est un blessé de longue date, comme on l'a déjà évoqué. Mais non, sinon, à part Ousmane Dembélé, il me semble que Xavi aura tout son groupe à disposition pour ce choc.
Nickel, du coup, bah, c'est noté. Et puis Miguel, de ton côté, du côté de Séville, pareil, voilà, côté absent et côté retour aussi d'absence, si jamais tu as des éléments à donner sur ce point.
Alors pour moi, le site me dit, enfin ce que je sur un site, c'est marqué Navas, Tecatito, bon Tecatito ça reviendra pas tout de suite. Télès, c'est vrai qu'il a eu une petite blessure, mais je pense qu'il va revenir dans le groupe. Dimitrovic et Marcao, je pense que Marcao ne jouera pas non plus. Mais il me semble que j'ai vu que Sampaoli récupérait tout le monde, à part Tecatito et Marcao. Donc je pense que Navas, Télès et Dimitrovic seront là.
Navas, il en a pour 3 semaines, il ne reviendra pas vers la Ligue Europa. C'est une information qui est sortie il y a 2 jours par le parti d'Asso Copé, il me semble.
Ok, bon va.
Et ouais. Voilà. Très bien, ouais, donc un groupe avec plusieurs absences et... bon, en tout cas, on suivra aussi selon la feuille de match, hein, le groupe en tout cas qui voyagera du côté du Camp Nou. Et puis maintenant pour le match en tant que tel, je vais d'abord rester avec toi si tu veux bien, Miguel. Voilà un peu comment tu sens cette rencontre. C'est vrai que on l'a dit avant, c'est vrai que Séville va mieux, mais en même temps, en face, il y a aussi un gros Barça. Donc voilà, de ton côté, comment tu vois un peu cette rencontre, comment tu la sens, et toujours voilà, en se disant qu'il y a quand même le maintien à assurer et la zone rouge qui reste pas très loin derrière. Donc voilà, comment tu abordes un peu ce déplacement au Camp Nou pour les joueurs et même pour les supporters de Séville?
Ben, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des buts parce que moi, je pense que ça va être un match ouvert. On va essayer de se battre pour ne pas justement retomber. Même si on repart qu'avec un point, ça serait fabuleux. Maintenant, on sait comment Barcelona joue. On sait comment. On sait que, pardon, c'est une belle équipe sur le papier avec les Lewandowski et compagnie, j'en passe. Il faudra qu'on sorte un gros match pour soit accrocher le nul. Soit pourquoi pas envisager la victoire, on ne sait jamais. Alors de là à dire j'y crois, non, ça serait mentir. Mais ne serait-ce que 1-0 ou 1-2-1, ça serait beau. Mais maintenant, moi, je miserais plus sur le nul. Parce que je pense qu'avec les mercatos qu'on a fait, même si ce n'est pas exceptionnel, et je pense que Sampaoli recommence du coup, et l'équipe entière, du fait qu'on a gagné les deux derniers matchs de championnat. À avoir pardon la confiance, mais la confiance, faut pas l'avoir trop beau, faut pas se dire qu'on arrive les mains dans les poches et que ça va être facile. Non, parce qu'on sait qu'on affronte quand même un cadre du championnat espagnol. Maintenant, moi, je miserais plus sur le nul. Je pense que ça va être un match ouvert et avec un nul, ça serait bien.
Très bien, bon, on y reviendra de toute façon juste après au moment du pronostic. Ben, si je peux juste te demander, est-ce que tu aurais un joueur voilà, que tu vois capable de faire une différence du côté de Séville pour ce match?
Ben, pour moi, ça sera Ocampos.
Très bien, oui, c'est vrai que ce serait dans la ligne aussi de ce qu'on a vu un peu depuis quelques jours, enfin sur le dernier match en tout cas, et puis de ce que tu nous disais juste avant. Sacha, ton côté, comment, voilà, pareil, même question, comment tu sens cette rencontre aussi au Camp Nou, et puis pareil, voilà, si tu avais un joueur à citer pour qui serait capable de faire en tout cas des différences à cette rencontre.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Miguel, je pense que ce sera un match ouvert. Sampaoli, il n'est pas connu pour blinder. Et donc je pense que voilà, il va se déplacer au Camp Nou dans un match où théoriquement dans la saison qu'est en train de vivre le Sevilla, Sevilla n'a rien à perdre. L'année dernière, c'était vraiment un duel au sommet pour la deuxième place. D'ailleurs, c'était un match assez fermé pour le coup, avec Lopetegui, et qui a été résolu par un but magnifique de Pedri, qui avait d'ailleurs été élu but de la saison, il me semble, en
Oui.
Liga. Mais non, voilà, sinon je vois un match ouvert. Je pense que voilà, le Barça va se présenter avec peut-être le même système qu'il se présente ces dernières semaines pour continuer à appuyer dessus. Mais il va y avoir une inconnue, c'est l'implication de certains joueurs. Est-ce que Xavi va pas faire tourner aussi? On sait que c'est quand même une équipe qui a beaucoup beaucoup joué ces dernières semaines. Il y a eu que des semaines à deux matchs, donc voilà, il y a des joueurs qui ont quand même quelques kilomètres dans les pattes. Gavi, Busquets, Araujo sont sous le coup d'une suspension. Donc pour le déplacement la semaine prochaine à la Ceramica, c'est aussi à prendre en compte. Koundé a vraiment beaucoup beaucoup enchaîné. Donc voilà, il va y avoir aussi, je pense, une question de gestion. Mais sinon, après, pour voir ce Sevilla, alors oui, c'est vrai que le Sevilla c'est vraiment remis à l'endroit avec ses deux victoires, une poussive face à Cadiz et puis une vraiment un peu plus facile face à Elche. Mais comme on l'a dit, c'est malheureux pour Elche, mais j'ai envie de dire, quelle équipe ne prend pas des points face à Elche cette saison? Ils sont vraiment au fond du seau, les pauvres. Mais non, donc je pense que le Barça devrait quand même imprimer son jeu avec plutôt de la facilité. C'est vraiment la première fois depuis je ne sais pas combien d'années que ce choc entre le Barça et Séville me paraît vraiment déséquilibré, parce que même défensivement, on sent que c'est quand même assez précaire. Il y a toujours des blessés dans leur secteur défensif, et ça ressemble quand même à une victime de choix pour Lewandowski. À voir aussi, ce sera un beau test pour Rafinha, mais la salle des machines avec, comme je l'ai évoqué, le milieu à 4, Busquets, Frenkie, Pedri et Gavi, s'il est reconduit comme ça, ce sera quand même très très dur pour le milieu adverse aussi. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui va laisser des espaces. La clé du match pour le Barça, ce sera d'essayer de tuer la rencontre le plus vite possible, d'arriver à la pause avec deux voire trois buts d'avance. On sait que lors du match aller au Pizjuan, alors c'était encore Lopetegui aussi, mais c'est ce qui avait permis au Barça de vraiment se donner une rencontre assez facile en menant rapidement 2-0, même si sur les contres, le Séville avait fait mal. Il va falloir faire attention à Enesiri parce que, mine de rien, il est quand même en bonne forme. Il a fait une très belle Coupe du Monde. On sent que physiquement, il est bien, il arrive à vraiment prendre souvent le dessus dans les duels aériens. Donc, ce serait intéressant de le voir face à Christensen et Koundé. Ça va faire pareil, là aussi, un beau match-up. Hein. On a vu un peu des chocs entre Sorloth et la défense, Borja Iglesias, là maintenant Nesyri. Voilà, c'est quand même des face-à-face assez sympathiques. Mais sinon, voilà, pour revenir, je vois un match ouvert. Je pense que le joueur qui peut faire la différence, on a l'habitude de le dire du côté du Barça, mais c'est Pedri. Je pense que Pedri aura un vrai rôle un peu entre les lignes, à faire la jonction entre l'attaque et puis la pointe basse du milieu avec Busquets et Frenkie de Jong. Voilà, se balader, arriver à distiller les bonnes passes, éliminer son vis-à-vis, tout ce qu'il sait très 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 bien faire. Je pense que c'est voilà, le Séville, c'est une équipe qui peut lui convenir là aussi. Donc voilà. Se mettre à l'abri le plus rapidement possible, je pense que le Barça est capable de le faire, et puis continuer sur cette magnifique série. Le Real Madrid va jouer juste avant à Majorque, donc voilà, il y aura sans doute la pression, soit positive, soit négative, et il faudra ajouter un autre succès, parce que même si c'est vrai que le Sevilla va mal cette saison, ça reste toujours un succès de prestige.
Voilà, oui, et puis effectivement, cette lutte à distance contre le Real Madrid, un peu tu évoquais, mais oui, effectivement, cette affiche entre le Barça et Séville qui est forcément un choc historique du football espagnol, et donc toujours un match très suivi. Bon, on va finir justement avec les pronostics, comme voilà, vous avez chacun donné votre analyse du match. Bah, je commence d'abord avec toi, Sacha, tiens, pour le pronostic de ce match.
Alors j'ai attention là je joue gros parce que ce que j'ai été en veine ces dernières semaines, mais je suis quand même rarement audacieux. Mais là je vais l'être quand même. Donc je pense que je vais donner mon plus gros pronostic que j'ai jamais donné dans un podcast. Je pense qu'il y a moyen d'en mettre minimum 4, je dirais 4-0.
Oui, effectivement, mais je crois pas que tu as donné autant une fois,
Je ne crois pas.
mais au moins voilà, tu as le goût du risque, c'est ça qu'on salue en tout cas. Miguel, de ton côté, quel pronostic tu donnerais pour dimanche?
Bah, j'ai envie de dire match nul quand même si j'aimerais bien les 3 points, mais je veux dire match nul, je veux dire 1-1 ou 2-2.
Ok, donc un match nul. Et puis bah, moi, alors je rejoins du coup plutôt on va dire l'issue du match que Sacha propose aussi, c'est-à-dire une victoire du Barça. Moi je dirais 2-0, parce que c'est vrai que même si Séville va mieux, alors je les vois capable d'éviter une déroute complète, mais voilà, pas assez en forme en tout cas pour faire quelque chose au Camp Nou, même si évidemment il peut toujours y avoir des surprises en tout cas, mais je dirais une victoire 2-0 du Barça pour ce match évidemment qui donc on l'a dit sera évidemment très important pour les deux équipes, pour le Barça évidemment dans la course pour le titre et maintenir cet écart de 5 points avec le Real Madrid, et puis pour Séville donc pour s'éloigner un peu de la zone rouge qui, ben voilà, mine de rien, reste qu'à 2 points, comme on l'a évoqué dans ce podcast, et avec des équipes qui, bon, certes, voilà, sont pas au meilleur de leur forme dans les poursuivants et dans les équipes qui, évidemment, se battent pour se maintenir, mais voilà, on sait que ça peut aller vite, en tout cas, et à part cette équipe d'Elche qui est vraisemblablement déjà condamnée, en tout cas en termes voilà, de maintien, enfin, en termes de ce qui est proposé par rapport au maintien. On voit mal comment ils s'en sortiront, même si voilà, si tout peut arriver évidemment. Mais c'est vrai que voilà, pour la course pour le maintien, la lutte pour le maintien en tout cas, elle est très disputée. Et Séville a tout intérêt à prendre des points rapidement. Et puis ben voilà, on arrive à la fin de ce numéro sur ce choc. Du coup, je vais d'abord te remercier, Miguel, d'être venu parler de l'actualité de Séville, de l'équipe, des résultats un peu de ces derniers temps. En tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir te recevoir à nouveau ici dans les podcasts.
Eh ben merci à vous, et puis bah Tony, bon match, que le meilleur gagne en même temps.
Voilà, c'est ça. Et puis merci Sacha aussi d'être venu pour nous parler du Barça. Pareil, toujours un grand plaisir de t'écouter.
Ben, toujours un plaisir, voilà, exactement. Voilà, ça fait plaisir de parler du Barça, surtout dans la période qu'on traverse. Dans les podcasts, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué, on va dire. Mais non, toujours un plaisir. Vraiment, merci à Miguel aussi d'être venu nous parler du Serie A, et puis merci à toi, Réfé, d'avoir animé tout ça. Donc voilà, on espère qu'on assistera à un très bon match et il nous tarde.
Voilà, exactement. Si ce podcast vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à le partager, à nous le faire savoir en commentaire, et puis évidemment à le partager au maximum. Et puis voilà, on vous dit en tout cas à très bientôt pour des nouveaux matchs qui arrivent en Liga, et puis dans les prochaines échéances qui arrivent dans les prochaines semaines, qui vont être évidemment très intéressantes. Voilà, bon match à tous, et en tout cas, on se dit à très bientôt.